Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce soir, un peu après 23h, France 3 va diffuser un nouvel épisode de L'ombre d'un doute. Donc Franck Ferrand a l'air particulièrement fier. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. En effet, c'est un bon cru que nous vous proposons ce soir, avec un documentaire de Gaël Chauvin sur les raisons véritables de l'abdication du roi d'Angleterre, Édouard VIII, ami de Hitler, et vous allez voir jusqu'où. C'est la première fois qu'une télévision européenne va aussi loin dans l'enquête sur le duc et la duchesse de Windsor, grâce notamment à des documents fournis par le FBI. Je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure, ce soir, en deuxième partie de soirée, pour en savoir davantage.
Comptez déjà sur moi. Alors, en attendant, il y a quelques jours du Nouvel An chinois, vous nous proposez d'aller faire un tour du côté de l'Empire du Milieu.
Mais oui, Julia, c'est dimanche prochain, le 10 février, que l'on va fêter le Nouvel An chinois et l'entrée du monde dans l'année du serpent. Pour l'occasion, je vous suggère de nous pencher sur le cas du tout premier empereur de Chine, le fondateur de la première dynastie, le souverain emblématique et dit-on cruel qui a lancé le chantier de la Grande Muraille, Qin Shi Huangdi.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes en plein cœur de la Chine, dans la province du Shaanxi, sur le territoire de la commune de Lintong, non loin de Xi'an. Xi'an a été, jusqu'au 10-11e siècle, la capitale historique du pays. En mars 1974, donc un peu plus de 2 ans avant la mort de Mao, des cultivateurs qui creusaient un puits voient apparaître à quelques mètres de profondeur une tête de gros personnage en terre cuite, et puis tout un corps de près de 2 mètres de haut, et puis un autre, et encore un autre. Très vite, les autorités locales réalisent que ce qui est en train de sortir de terre à Lintong, c'est le plus fabuleux gisement archéologique de tous les temps. Ce qu'on va bientôt appeler la fosse numéro 1, mesure 230 mètres de long pour 62 mètres de large. Alors évidemment, tout de suite, on va construire au-dessus de ces excavations, on va construire des superstructures, une sorte de hangar pour protéger les personnages exhumés. En fait, l'amorce d'une gigantesque armée de terre cuite, plus de 6000 guerriers dans cette première fosse, et il en resterait du reste autant à déterrer. Des travaux archéologiques titanesques vont se dérouler sur de nombreuses années. On met au jour une fosse numéro 2 qui comporte 1400 sujets et puis une troisième avec 68 soldats de terre cuite et 5 autres encore remplis de statues de pierre calcaire, d'ossements de centaines de chevaux immolés, de bronze, d'animaux rares de toutes sortes. Bientôt, le monde entier va s'extasier devant ces milliers de grands soldats de terre cuite, tous différents, disposés selon un ordre militaire. Ils sont, si vous voulez, en formation de combat et accompagnés de leurs chevaux et de leurs armes réelles. On devait apprendre que cette armée silencieuse avait veillé sur l'immortalité du tout premier des empereurs de Chine, sur l'immortalité de l'unificateur du pays, donc Qin Shi Huangdi. Nous verrons tout à l'heure comment il faut prononcer ce nom un peu difficile. On suppose que la tombe de l'empereur lui-même est située sous un grand tumulus qui se trouve à environ 1,5 km de là. Et naturellement, la démence mégalomaniaque de ce personnage surgit des premiers âges de l'histoire apparaît comme une évidence. Qu'un même homme ait pu lancer la construction du plus grand monument de l'humanité, la Grande Muraille, et ordonner la mise en œuvre de ce mausolée gigantesque avec ses milliers de géants de terre cuite, tout ça paraît surhumain. Voici ce que l'historien traditionnel chinois Sima Qian, né un siècle après le début du chantier de ce mausolée, un chantier qui aurait duré, selon lui, 36 ans et aurait mobilisé, tenez-vous bien, quelques 700 000 artisans. Voici ce que Sima Qian écrivait. Quand il eut réuni dans ses mains tout l'empire, il parle donc de ce premier empereur, les travailleurs qui y furent envoyés furent au nombre de plus de 700 000. On creusa le sol jusqu'à l'eau, on y coula du bronze et on y amena le sarcophage, des palais, des bâtiments pour toutes les administrations, des ustensiles merveilleux, des joyaux et des objets d'art y furent transportés et enfouis et emplirent la sépulture. Des artisans reçurent l'ordre de fabriquer des arbalètes et des flèches automatiques et si quelqu'un voulait faire un trou et s'introduire dans la tombe, elle lui aurait soudain tiré dessus. Kinershi dit « Il ne faut pas que celles des femmes de l'empereur décédées qui n'ont pas eu de fils soient mises en liberté. » Donc ce qui veut dire que le nouvel empereur va ordonner que toutes le suivent, l'ancien empereur, dans la mort. « Ceux qui furent mis à mort furent très nombreux », écrit Sima Qian. Quand le cercueil eut été descendu, quelqu'un dit que les ouvriers et les artisans qui avaient fabriqué les machines et caché les trésors savaient tout ce qu'il en était et que la grande valeur de ce qui était enfoui allait donc pouvoir être divulguée. Quand les funérailles furent terminées et qu'on eut dissimulé et bouché la voie centrale qui menait à la sépulture, on fit donc tomber la porte à l'entrée extérieure de cette voie et on enferma tous ceux qui avaient été employés comme ouvriers ou artisans à cacher les trésors. Ils ne purent pas ressortir. On planta des herbes et des plantes pour que la tombe de l'extérieur prît l'aspect d'une montagne. Des mesures du projet, violence de sa mise en œuvre, on ne va pas s'étonner après cela de la légende noire entourant forcément le premier empereur, fascinant personnage. L'historien François Thierry du département des monnaies et médailles de la Bibliothèque nationale de France vient de lui consacrer une biographie critique. Je suis heureux de le recevoir pour tenter d'en savoir plus sur ce souverain chinois des temps anciens. Et j'ai aussi demandé à Li Bin Liu Le Gris, qui est d'origine chinoise et qui dirige l'entreprise de conseil France-Chine, de nous rejoindre pour nous donner, si l'on peut dire, le point de vue des Chinois d'aujourd'hui sur cet empereur de légende.
De héros sur Europe 1, un extrait du film de Zhang Yimou, Franck.
Et oui, qui se situe précisément dans cette période assez passionnante. Alors la période en question, évidemment, le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas familière à un public français. Nous ne sommes pas très bons en France dans tout ce qui concerne l'histoire de la Chine. Et je me rappelle que lorsque j'étais collégien, je m'amusais à apprendre par cœur non seulement les dynasties mais les souverains chinois et ça me donnait un succès fou parce qu'évidemment personne chez nous ne connaît ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour à tous les deux. Merci d'être venu. Alors, il faut peut-être que, avec vous, Li Bin Liu Le Gris, si vous voulez, j'aimerais qu'on revienne sur le contexte. Au tout début, la Chine est loin d'être un État unifié, bien entendu. C'est une mosaïque de principautés qui se font la guerre et qui se font la guerre à l'infini, notamment pendant les 5, 4, 3, 2e siècle avant notre ère, à la grande époque de la sagesse chinoise d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc il est intéressant de rappeler le contexte historique dans lequel la Chine se trouve juste avant la dynastie Qing, fondée par Qin Shi Huangdi.
Donc on ne dit pas Qin, on dit Qin.
Qin, hein. Voilà,
c'est ce qu'on disait de Sine autrefois, finalement c'était plus proche.
Chine vient pratiquement de cela. Ah, oui. Donc à l'époque, c'est une époque, on l'appelle la dynastie des Zhou de l'Est, que les Chinois l'appellent aussi périodes de printemps et automne, Chunqiu et Zhangguo, donc des royaumes combattants. C'est-à-dire que la période des printemps et automne commence à 770 avant notre ère, donc c'est de 8e siècle jusqu'à 5e siècle.
Pourquoi appelle-t-on ça la période des printemps et des automnes?
Parce que c'est cette époque-là où la Chine en Chine, on l'appelle centaine d'écoles de penseurs, où sont nés donc Lao Tzu et Confucius,
et voilà,
qui sont les pères fondateurs de la pensée chinoise. Et c'est également à cette époque-là que le livre L'art de la guerre a vu le jour.
De Sun Tzu.
Ah voilà, de Sun Tzu.
Donc, Confucius, Lao Tzu, Sun Tzu, tout ça c'est dans cette période.
Tous, oui, tous les grands pères fondateurs des courants de penseurs chinois sont nés pratiquement de cette époque-là, y compris le légiste que le premier empereur a utilisé comme la loi nationale pour diriger le pays.
Alors évidemment, les films chinois nous ont habitués à cette période un peu postérieure, dite des sept royaumes. tombe. Donc là, on arrive dans une...
Pas encore. C'est-à-dire, on est à la période des printemps et automne,
oui,
qui
ça,
date
voilà.
de 8e à 5e siècle.
Voilà.
Et à partir du 5e siècle jusqu'à 221,
c'est là.
L'année où Qin Shi Huangdi a fondé la dynastie, là, c'est la période des royaumes combattants.
Ça, ça.
C'est ça. C'est-à-dire que lors de la période des printemps et automne, la Chine est divisée en une dizaine de royaumes combattants, hein, des royaumes avec au sein de chaque royaume plusieurs principautés. Et c'est pour ça donc c'est printemps, automne, c'est-à-dire que tantôt c'est votre royaume qui gagne et tantôt c'est l'autre.
C'est l'autre, oui, voilà.
Et lors de la période des royaumes combattants, c'est-à-dire de 5e siècle à 221 avant notre ère, la Chine donc comptait à cette époque-là 5 royaumes principaux.
Mmh. Alors
donc
le,
c'est ça, royaume combattant.
Le plus important, François Thierry, c'est ce fameux Qin. Hein,
oui, c'est le royaume qui va prendre l'hégémonie sur la Chine. En fait, il y a cinq royaumes importants qui sont le Qi à l'est, le Qin à l'ouest, le Chu au sud, le Chao au nord, et puis le Yan à l'extrême nord. Et puis au centre, il y a trois royaumes qui sont issus de l'éclatement du duché de Qin.
On peut dire que le royaume principal, hein, ce royaume de Qin, qui s'écrit Q-I-N dans
ouais,
la transcription actuelle, ce royaume-là est au cœur hein, de la masse chinoise. Si
non,
je puis
il
dire.
Est à l'ouest. Il est à l'ouest.
Oui, enfin, il est au cœur continentalement, je veux dire.
Oui.
Oui, c'est sur la partie ouest du pays.
Voilà.
C'est ça.
C'est-à-dire que le problème, c'est que la Chine antique n'est pas la Chine actuelle.
Voilà,
c'est-à-dire qu'effectivement, dans la Chine actuelle, sur le territoire de la Chine populaire, le royaume de Qin se trouve effectivement au centre de la Chine.
Voilà,
mais à l'époque, il est à l'ouest. Parce qu'en fait, tous les terrains occidentaux de la Chine actuelle sont hors du monde chinois.
Alors ce premier empereur, l'homme qui va réussir à unifier la Chine, on ne sait pas exactement ce qu'il en est de ses origines. Il y a quand même un certain mystère qui plane sur ses origines, Li Mingyu.
En fait, selon les annales historiques de Sima Qin, vous avez parlé tout à l'heure, donc mm-hmm. Sima, c'est le nom chinois qui on s'appelle S-I-M-A, Sima Qin. Mm-hmm. Donc c'est le plus grand historien qui a écrit durant...
Historien antique. Hein.
Antique, voilà. Qui a écrit le premier livre historique de la Chine, hein, donc, qui s'appelle Shi Ji. Donc, selon Shi Ji, premier empereur qui est né, en fait, dans le royaume Zhao, Z-H-A-O, et il est monté sur le trône du royaume Qin, Q-I-N, à l'âge de 13 ans, et à l'âge de 22 ans, il a pris donc les pleins pouvoirs pour diriger le royaume Qin, et après il a mis 10 ans pour conquérir les 6 autres royaumes pour unifier la Chine, donc en 221.
De qui est-il vraiment le fils? Alors, je ne vous demande pas forcément les noms, ça va finir par perdre nos auditeurs, mais quelle était la qualité de son père notamment? Ça,
oui,
c'est
donc c'est très important si on veut connaître sa vie et sa carrière, de connaître un petit peu l'origine donc de sa famille. Les annales de Sima Qian, donc Shi Ji, a consacré un chapitre entier à la vie de son père. Donc son père s'appelle Lu Buwei, Lu, hein, on va dire mm-hmm. Lu Buwei. C'est un marchand très riche, puissant et fort, avisé. Donc un jour, il a fait connaissance du petit-fils du roi du royaume Qin, Q-I-N. D'accord? Le père de futur empereur est d'origine du royaume Zhao, hein, Z-H-A-O. Il a fait connaissance du petit-fils du roi du royaume Qin, Q-I-N. Et il a dit, selon, toujours dans les annales, Ci qi huo ke ju, cette marchandise extraordinaire a des valeurs d'investissement énormes.
Oui, il a compris donc, que là, il y avait évidemment plus que de belles affaires
enjeu.
À faire. Oui.
Et donc, il est allé voir son père. Il a posé 3 questions à son père. C'est que, première question, c'est que si on fait l'agriculture, c'est-à-dire si on cultive les terres, quels sont les bénéfices qu'on peut tirer des récoltes? Son père a dit 10 fois de bénéfices. Et deuxième question, c'est si on fait du commerce en vendant de la soie, du jade, combien de bénéfices qu'on peut en tirer? Son père a dit, ah là, c'est une dizaine, voire une centaine de fois de bénéfices. Et la troisième question, c'est que si je aide à quelqu'un à monter sur le trône, père, quel bénéfice je pourrais en tirer? Son père lui a répondu, alors là, mon fils, les bénéfices sont inestimables, parce que là, c'est pas l'argent que vous allez gagner, c'est tout le territoire et le pouvoir. Et c'est à partir de là que ce père, qui a dépensé une fortune pour faire monter son fils.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Franck et ses invités qui nous emmènent en Chine cet après-midi sur les traces du tout premier empereur en 221 avant notre ère.
Alors, est-ce qu'il y a, oui ou non, des doutes sur l'hérédité, sur les ascendants de ce premier empereur, François Thierry?
Oui, il y a des doutes, mais en même temps, il faut penser une chose, c'est que l'histoire telle que Sima Qian l'a écrite est une histoire idéologique. C'est-à-dire Sima Qian est un historien des Han, et pour les Han,
qui est la grande dynastie qui suit en fait,
celle de Qin, le premier empereur, c'est le monstre absolu. Donc on va
essayer de le noircir.
Voilà, on le noircit, et donc par exemple les historiens Han assez souvent appelle le premier empereur de son prénom, c'est Cheng, et il l'appelle Lu Cheng, sous-entendu fils de Lu Po Wei. Mais en fait, on n'a aucune preuve. Tout ce qu'on sait, c'est que
Lu Po Wei. C'est-à-dire qu'on veut absolument qu'il soit fils d'un marchand et pas fils,
voilà,
de l'empereur.
Hein. Qui est une
pas,
sorte
enfin, d'un roi plutôt.
Voilà, oui. Bon, une bâtardise, c'est ça. C'est l'idée, c'est la bâtardise. Mais en fait, bon, on n'a aucune preuve. Alors, ceci dit, ça a existé, hein, parce qu'on a dans d'autres royaumes, on sait très bien que des premiers ministres donnaient une fille déjà enceinte à un roi qui n'avait pas d'enfant pour essayer d'avoir une part du pouvoir. Là, pour l'histoire de Lu Po Wei, on n'a aucune preuve, on ne sait pas. Bon.
Sa mère est aussi un personnage.
C'est un personnage, comment dire, un peu leste, pour le moins, puisqu'elle est une danseuse. C'est au cours d'un banquet que le père du premier empereur la remarque, parce que Lu Po Wei, c'est une danseuse qui appartient au harem de Lu Po Wei, et il la voit danser, il est un peu excité, et il demande à Lu Po Wei de lui offrir la fille. Ouais. Et effectivement, Lu Po Wei lui offre la fille. Les historiens des Han vont dire oui, mais elle était déjà enceinte de Lu Po Wei.
C'est ça. Est-ce qu'au moment où elle épouse le roi, elle est déjà enceinte? Ça, c'est la grande question. Mais en fait,
on n'a aucune preuve. Est-ce que c'est une légende qui traînait et que à ce moment-là, Sima Qian aurait validé lui-même, ou alors c'est Sima Qian qui le dit et ensuite on l'a colporté? En fait, on n'en sait rien. Bon, c'est de toute façon, ça n'a relativement peu d'importance pour la réalité des affaires. Sauf, évidemment, idéologiquement, c'est très important.
Voilà.
Parce que dans la politique des Han, ça va être une tâche qu'on va aider, quelque chose qu'on va agiter en permanence sur la...
On dit que Mao Zedong était très, très intéressé par ce personnage du premier empereur et qu'il s'est lui-même beaucoup penché sur son ascendant, sur ses origines, etc., que ça le passionnait.
Oui, Mao Zedong est quelqu'un qui est quand même un petit lettré, qui a fait les études et qui est très attaché à l'histoire, comme tous les Chinois, comme la majorité des Chinois. Et puis, comme Qin Shi Huang dit, c'est quand même un premier unificateur, comme vous avez dit. Mao se considère comme quelqu'un qui a retrouvé l'indépendance à la Chine, parce qu'avant Mao, à savoir que la Chine était dans une période semi-féodale et semi-colonial hein, par les Français, les Anglais, tout ça, et que par les Japonais notamment. Donc c'est Mao qui a réussi avec l'ensemble. Il se considère comme le personnage le plus important qui a réussi à retrouver l'indépendance et donc
et la réunification.
Voilà, une nouvelle unification.
Alors en 238 avant notre ère, ce personnage, celui qui va bientôt devenir le premier empereur, prend le pouvoir. Là, on peut dire qu'il met un coup d'État, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, il monte sur le trône comme enfant. Hein. Il est roi, mais enfant, donc à ce moment-là, en 247. Et à ce moment-là, il est sous le pouvoir du premier ministre Lu Po Wei, donc le premier ministre de son père qui continue à assurer la régence, et la régence théorique de sa mère, donc Cao Xi. Pendant quelques temps, pendant une dizaine d'années, finalement, il n'est qu'un enfant roi, ou un roi enfant. Et donc, c'est effectivement en 238 qu'il va prendre réellement, en devenant majeur, qu'il va prendre le pouvoir. Et là, évidemment, il le fait de façon extrêmement violente.
Brutale, oui.
Mais en même temps, c'est vrai que de l'autre côté, la reine mère et son amante de l'époque avaient, eux, pensé. La reine mère avait deux enfants de son amant. Et eux, ils avaient pensé probablement faire un coup d'État pour renverser le roi et placer leurs enfants, puisqu'on a Bon, dans ce matière, on a des éléments pour le penser. Mais le Cheng, le roi de le futur Shi Huangdi, est très très bien renseigné. En fait, il prépare à l'avance son contre-coup d'État. Et là, effectivement, il liquide l'amant de la reine, tous les officiers qui avaient...
En coupe des têtes.
En coupe des têtes. Tous les officiers, les chefs de la garde, les chefs de l'armée, qui, eux, avaient obéi à la reine-mère. C'est un coup d'État, un contre-coup d'État très, très sanglant.
J'ai l'impression que Sun Tzu n'était pas un des livres de chevet de ce personnage. Hein, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est plutôt dans la violence brutale et immédiate, là, en l'occurrence. Hein.
Oui, mais Sun Tzu aussi préconise la ruse. Hein.
Oui, oui.
Pas que l'art de la guerre, c'est vraiment combattre vaincre sans combattre.
C'est ça, voilà. Oui.
Voilà, c'est la ruse, mais pour lui, c'est quelqu'un qui est extrêmement rusé, un grand politicien, un stratège de grand niveau. Hein, donc pour lui, c'est pas grand-chose.
Alors, ça va être le début du règne personnel de ce personnage, de ce Shi Huangdi. Quelle va être l'inspiration de ce règne et quels en sont les inspirateurs? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Et pour parler sur Europe 1 du premier empereur de Chine, nous sommes toujours en compagnie Franck de l'historien François Thierry et de Libin Liu Legris qui dirige le cabinet de conseil France Chine.
Alors, nous étions au moment crucial de la prise de pouvoir de notre personnage. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler en une ou deux syllabes pour que ce ne soit pas trop compliqué, Libin Liu Legris?
Appelons-le
Qin, tout simplement.
Shi Huangdi. C'est difficile?
Non, Shi Huangdi.
Qin, ça veut dire le royaume. Donc Qin, Shi, c'est le premier commencement. Shi Huangdi. Empereur.
Voilà. Donc, on peut l'appeler par son prénom, Chen.
Voilà, tout simplement. Ben, ça sera plus pratique.
Yingzheng.
Chen, appelons-le comme
Ying,
ça.
C'est très famille.
Oui. Mais on n'appelle pas un empereur par son prénom, généralement.
Oui, non, mais
en Chine, quand on appelle quelqu'un par prénom, c'est un peu une injure.
Hein, ah, d'accord. Bon, alors nous allons essayer de rester polis.
Bien sûr.
Donc, ce personnage, c'est encore comme ça qu'on va l'appeler, finit par donc prendre le pouvoir. Oui. Et il est sous la coupe de son propre précepteur, hein, qui est peu son conseiller occulte et même officiel, du reste.
Hein. Le fameux marchand donc, qui était régent, Lu Po-wei, va placer auprès de l'enfant celui qui croit être un de ses agents, mais qui en fait va le tromper. C'est Lys qui va devenir donc le précepteur et le formateur et déformateur en fait de l'enfant. Et donc, il va y avoir une sorte de nouveau couple qui va se créer. Cheng, le jeune roi, et puis Lys, le précepteur, qui deviendra premier ministre de fait, mais avec des titres un peu bizarres comme responsable de la justice, des choses comme ça.
Alors, il y a évidemment encore tous ces royaumes à phagocyter, si je puis dire. Il faut liquider ce qui reste des...
Oui, mais les royaumes sont déjà complètement ruinés.
Oui, ils sont à genoux, là.
Ils sont à genoux, à part le Chu, le royaume du Sud, les autres sont complètement à genoux. Hein. D'ailleurs, pour certains, sont vassaux et admettent la suzeraineté du Qin. Mm-hmm. Donc ça, c'est relativement facile. Et on verra que la seule fois où le roi Cheng, va intervenir dans les affaires militaires, c'est pour aller attaquer le Chu et ça sera une catastrophe. Parce qu'il fera un très mauvais choix des militaires et l'armée de Qin sera battue. Et il faudra finalement que le roi aille demander au vieux général qu'il avait écarté de venir faire la conquête du Chu parce que sinon il n'y arrive pas. Donc il y a vraiment là quelque chose, on voit très bien que on a souvent comparé Qin Shi Huangdi à Alexandre, à César.
C'est pas
du tout, parce que c'est pas au point
de vue. C'est pas un grand conquérant,
c'est pas un grand militaire. Et en fait, là, il est bien forcé de revenir. Il va rechercher le vieux général Wang Chan.
Il va mettre 10 ans quand même. À prendre le contrôle de l'ensemble des royaumes. Et donc, fois qu'il a pris ce contrôle, eh bien, il peut créer un nouvel empire. Donc, ça, c'est la grande nouveauté politique.
Ben oui.
C'est là qu'il est le fondateur.
Justement, donc la Chine est devenue pour la première fois depuis l'histoire, c'est-à-dire depuis la première dynastie qui est de 2070, la dynastie des Xia fondée par Da Yu, donc Grand Yu, jusqu'à donc 221 avant notre ère, pour la première fois unifiée, c'est-à-dire une Chine unifiée qui constitue donc un empire impérial, hein, un empire dont le pouvoir extrêmement centralisé est fort et le territoire s'étend à l'est jusqu'à la Pacifique, à l'ouest jusqu'à Lintao, qui se trouve aujourd'hui dans la province du Gansu, et au nord, aux murailles qui forment la Grande Muraille, et dans le sud, jusqu'dans les provinces du Guangxi, du Yunnan et une partie du Vietnam aujourd'hui. Mmh. Donc cet empire chinois qui a, contrairement à l'empire romain qui a été créé 2 siècles après, qui n'a duré que 5 siècles, cet empire chinois a perduré donc pendant plus de 2000 ans, jusqu'à 1911.
Mais oui.
Jusqu'à l'année où Sun Yat-sen a monté, a fondé donc la République de Chine. Là, mmh. on voit encore dans le film.
Il y a un siècle de ça.
Le dernier, voilà, oui, il y a un siècle seulement.
Donc c'est une durée absolument phénoménale. Oui. Alors il y a une dimension sacrale, une dimension transcendantale dans le pouvoir qu'acquiert King Chi Huangdi.
Oui et non, parce qu'en fait il faut penser que son arrivée et l'aboutissement de l'unification du pays, en fait, commence bien avant. C'est son arrière-grand-père, Chao Xian, qui commence la conquête de la Chine. Mmh. Et quand Qin Shi Huangdi monte sur le trône, en fait, les trois quarts de la Chine sont déjà unifiés. Il y a déjà une unification. On a déjà créé les commanderies. L'administration a déjà été mise sur place. Le gouvernement central existe déjà. Donc, en fait, Qin Shi Huangdi ne fait qu'appliquer à l'ensemble de la Chine, en fait, ce qu'il va conquérir, les méthodes, les pratiques et finalement aussi bien répandre l'administration de ce qui était là avant.
Mais je voulais parler du décret du ciel, hein, de cette.
Alors le mandat céleste, il est c'est quelque chose qui appartient, donc le fils du ciel, c'était le roi des Zhou, mais les Zhou ont disparu en 255, c'est-à-dire bien avant la création de l'empire. Et en fait, c'est son arrière-grand-père, c'est Chao Xian qui met fin au mandat du ciel des Zhou. Et lui-même va d'ailleurs, Chao Xiang, son arrière-grand-père, en 255, il va faire des choses qui sont considérées comme des sacrilèges. C'est-à-dire que lui, il va faire le sacrifice du Nanqiao au sud de la capitale au ciel. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire les sacrifices impériaux qui, logiquement, sont des choses qui sont uniquement réservées au fils du ciel. C'est-à-dire, on peut dire que déjà en 255, Qin constitue un embryon de dynastie, une dynastie. Et ça, c'est quelque chose qui sera repris après, évidemment. Mais on peut dire que en 255, il n'y a plus de dynastie des Zhou. Et déjà, la quatrième, ce qu'on voit apparaître, la quatrième dynastie, c'est déjà Qin.
Alors, en tout cas, plus on va avancer dans le règne de cet empereur, et plus la dimension religieuse sera importante.
Oui, alors ça, c'est le personnage. C'est en fait la mentalité du personnage qui évolue. C'est-à-dire que le personnage, il n'est pas seulement influencé par le légisme, qui est la grande philosophie de ses ancêtres et du royaume de Qin. Il commence à s'intéresser à beaucoup de philosophies qui sont liées au taoïsme, mais le taoïsme est un peu lié au légisme, à s'intéresser aussi à l'ésotérisme, et en particulier à tout ce qui touche à la survie, la vie éternelle. Donc son grand problème, ça va être d'essayer de devenir immortel. Donc il va chercher par tous les moyens, soit à trouver des immortels, soit
il cherche des signes, hein, tout voilà. simplement, et il cherche à utiliser les signes pour montrer son pouvoir et sa légitimité. En
voilà.
fait,
alors ça, c'est toute une série de signes, mais le problème, c'est que la plupart des signes vont à l'encontre, justement.
C'est-à-dire,
eh bien,
il y a des catastrophes naturelles.
Quand il va faire le sacrifice sur le Taishan, qui est la grande montagne sacrée où on va faire des sacrifices au ciel.
Quand vous dites des sacrifices, c'est des sacrifices humains ?
Non, pas du tout.
C'est des offrandes, en fait.
Offrandes. Oui. Et bien là, la montagne quasiment lui refuse le sacrifice parce qu'il y a un immense orage. Et toute la cohorte royale et impériale doit se cacher, se réfugier. Alors l'empereur doit aller se réfugier sous un pin pour être protégé de l'orage. Et d'ailleurs, le pin sera promu à des hautes fonctions comme Caligula.
Racontez-nous.
Avait promu son cheval.
Vous racontez cette météorite, enfin ce météorite qui serait arrivé avec un message.
Voilà, l'empire est déjà fondé, et un météorite tombe, et sur le météorite, il y a une inscription où il y a marqué celui qui détruira l'empire sera Hu. Et en fait, Hu, les gens ont pensé que le caractère Hu en chinois, ça désigne les barbares du Nord. Mais en fait, ça peut être aussi Hu, le nom de son fils, Hu Hai.
Alors cet homme, on va le voir, est un très grand administrateur. Il va créer des routes, il va créer toutes sortes de subdivisions administratives dans la Chine. Il va lancer le chantier de la Grande Muraille et lancer ce chantier phénoménal du mausolée dont nous parlions au début de cette émission. Où trouvait-il l'énergie de tout cela et comment un peuple a-t-il pu se mettre à l'unisson d'une telle volonté? C'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant.
Sur Europe 1, c'est un nouvel extrait du film de Zhang Yimou, Héros.
La ruine du Qin, ascension, triomphe et mort du premier empereur de Chine à la librairie Vuibert, c'est l'ouvrage de François Thierry. Et Libin Liu Legris, avec Claude Chancel, nous livre un grand livre de la Chine aux éditions Erol, qui fait qui fait une sorte de point général sur l'histoire, la géographie, la civilisation, la pensée, l'économie, la politique de la Chine. Tout ce qu'il faut savoir sur ce qui est en train de devenir gentiment la première puissance du monde. Alors, ce personnage, est complètement mégalomane, disons-le. Il lance des chantiers tels qu'on n'en avait jamais vu en Chine avant lui et tels que d'ailleurs on n'en reverra sans doute jamais non plus.
Oui, ça il faut avouer qu'on a... On a d'abord les routes, hein. C'est vrai que ça c'est... Mais les routes c'est une idée aussi de géopolitique. À savoir, il faut que le centre de l'Empire soit relié à toutes les provinces. Donc il va construire d'immenses routes et il demande que les routes soient rectilignes. Mais... Alors, il faut qu'à couper les montagnes, on a la description en particulier de la route qui va au nord, où elle doit être toute droite, donc on coupe dans les montagnes. On a les canaux, il a ouvert des canaux, en particulier il y a un canal tout à fait important qui va permettre de rejoindre les deux bassins, le bassin du fleuve bleu, d'une part, avec le fleuve de Canton, le Sichuan. Donc là, c'est des choses...
travaux d'infrastructure considérables. Oui, on peut imaginer les masses humaines que cela mobilisait.
Oui, tout à fait. La Grande Muraille est à la fois le patrimoine chinois et aussi qualifié par certains historiens comme le cimetière le plus long du monde, quoi. C'est vrai parce qu'il y a, 200 000 personnes qui ont participé à ce gigantesque travaux dans des conditions très très dures.
Et alors, est-ce que c'est vrai l'histoire des 700 000 personnes qui auraient été mobilisées pour construire
pendant
cette armée pendant 38 ans, c'est complètement fou.
Bien sûr, parce que c'est tout un univers.
On parle là du mausolée, de toute cette armée de terre cuite, en fait.
Il y a dans les chiffres en Chine, dans les chiffres sont
parfois symboliques.
Voilà, hein, les chiffres sont symboliques. Pour dire beaucoup en Chine, on dit 10 000. Bon, et là, alors les chiffres, on n'a pas de vérification. Comme pour le nombre de gens qu'on massacre. Pendant une bataille, on va dire, après la bataille, on a massacré 400 000 soldats. Non, on n'a probablement pas massacré 400 000, on a massacré beaucoup. Mais le 400 000, c'est peut-être une extrapolation. Mais c'est vrai qu'on massacre beaucoup. On envoie énormément. Les tribunaux doivent donner de la chair pour les grands travaux. Donc on envoie sur la Grande Muraille.
Ah oui, voilà.
Mais la Grande Muraille, bon, il faut aussi relativiser. Parce que les murailles existaient avant Qin Shi Huangdi. Chaque royaume avait ces murailles qui se protégeaient. Donc, Qin Shi Huangdi va détruire les murailles internes.
Pour construire la grande muraille de l'Empire.
Voilà, donc on va raccorder les murailles du Nord, des différents États du Nord. Mais c'est quand même un travail gigantesque. Et surtout, ça permet d'envoyer... C'est une des punitions. Hein.
C'est ce qui est un peu étrange, c'est qu'on n'a pas d'autre exemple d'un mausolée constitué de soldats de terre cuite comme ça.
C'est de telle ampleur, bien sûr.
C'est ça.
Parce que le mausolée fait 56
kilomètres.
Mais
pas de cette importance.
56 kilomètres. Donc l'armée en terre cuite ne constitue qu'une minuscule...
Oui, bien
bien sûr. De son tombeau. Moi, je pense que le plus important à retenir, à part donc ces travaux gigantesques, c'est d'abord, comme disent les Chinois le considèrent quand même un grand administrateur, un organisateur hors pair, c'est que lui, depuis qu'il est sur le trône, il a quand même donc aboli le système féodal de fief, distribué aux princes par héritage, et en remplaçant par la distribution de la terre par mérite et en famille, par famille. Et puis surtout, il a créé des fonctions, les fonctions impériales, qui s'appellent San Gong Jiu Qing, donc trois gong. Qing, c'est la fonction la plus élevée de la fonction impériale, et neuf qing, ça veut dire la fonction juste en dessous de gong. Donc trois gong, c'est premier ministre, donc qui est zaixiang, et puis
Yishi
Daifu qui est le ministre de l'intérieur, et puis Tai Wei qui est le ministre des armées, et après en dessous neuf fonctions qui sont aujourd'hui l'équivalent de secrétaire d'État,
d'État, voilà,
qui
ça.
Sont chargés des protocoles. Donc ministre protocole, l'agriculture,
de la culture, et tout ça,
la médecine, de la loi. Et après, il a administré, bien sûr, avant Jun et Xian. Donc, la préfecture et la commanderie existent déjà. Mais ça n'a jamais été dans une ampleur de telle. Donc, il a administré le pays en 36, après 44 préfectures et commanderies. Et surtout, tous les préfets et les chefs de commanderie, y compris les trois gong et les neuf qing, sont directement nommés et déchus par l'empereur lui-même. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'empereur est dorénavant tous les pouvoirs administratifs.
Alors...
Ce qui est important de comprendre cela pour comprendre l'histoire de la Chine et la Chine d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de Français, lorsqu'ils me parlent de la Chine aujourd'hui, hein, que le président chinois qui regroupe tous les pouvoirs administratifs, puisqu'il est chef d'État, président de la République, il est également secrétaire général du Parti communiste. Il est également chef de l'armée militaire. Mm-hmm. Mais c'est une histoire, c'est la culture chinoise, c'est ça la Chine. Mais
la centralisation.
La centralisation, ça, il faut pas. C'est aussi une légende, un peu une légende colportée par les historiens Han. Parce que si on prend dès le milieu du 4e siècle avant Jésus-Christ, avec les réformes de Shangyang à Chine, on crée les 41 circonscriptions dirigées non plus par des aristocrates, mais par des fonctionnaires révocables. Donc en fait, le Qin, c'est pas Qin Shi Huangdi qui va inventer tout ça. Ça existe déjà, il ne fera que...
Il formalise, il ancre les choses.
Il ne fait que qu'appliquer au reste de la Chine qu'il conquiert ce qui existait déjà. Parce que on voit qu'entre 307 et 271, il y a déjà la Chine conquise par le Qin, il y a déjà 10 commanderie. Et ensuite, entre 260 et 209, il y en a 14. Et en fait, quand il arrive au pouvoir, quand il est vraiment, eh bien, il y en a déjà 36.
Donc il ira jusqu'à 44.
Il ira jusqu'à 44.
Mais les chefs ne sont pas nommés directement par
en tout cas.
Si, les autres, c'est pas
chaque royaume. On a l'exemple du Shu, la conquête en 316, la conquête du Sichuan, de Shu, Ba, les deux qui vont faire deux.
Les deux. Je vous assure que je suis pas persuadé que ça captive nos auditeurs.
Ah si, parce qu'on voit très bien qu'il y a le débat sur est-ce qu'on met à la tête de ces provinces des aristocrates ou des fonctionnaires.
Voilà, donc ce qu'il faut dire en quelque sorte, c'est que ce personnage extraordinaire va en tout cas incarner le passage d'une pluralité à une unicité, et il devient le symbole de l'administration centralisée d'une Chine qui se veut directement reliée au chef dans tous les domaines et dans toutes les pyramides, qui sont des pyramides en quelque sorte qui sont concentriques, hein, et donc il y a ce pouvoir centralisé, cette unification du pays et cette création d'un État. On est donc très tôt, hein, on est au 2e siècle avant notre ère. Alors évidemment que tout ça est eu des prémices, qu'il n'ait pas été le premier et qu'il n'ait fait en quelque sorte que formaliser ce qui existait, et ça c'est votre rapport et c'est ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, François Thierry, mais il reste en tout cas le symbole de cela. Peut-être parce que les historiens Han ont voulu qu'il en soit ainsi, mais aussi parce que ça aide peut-être la Chine de savoir qu'à l'origine il y a eu ce personnage, ce grand administrateur et ce grand centralisateur. Alors, quel était connaît son caractère, comment expliquer qu'il ait fait, enfin qu'on ait fait après sa mort, tuer tous ceux qui l'avaient approché. Enfin, il y a quand même un côté assez effroyable dans tout ça. Et puis, est-ce qu'il était aussi paranoïaque qu'il en a l'air? C'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant.
Et je vous rappelle que jusqu'à 14h sur Europe 1, nous nous intéressons au premier empereur de Chine, Franck.
Et oui, alors ce premier empereur était quand même un personnage... Est-ce qu'on peut dire qu'il était paranoïaque finalement, François
Thierry? Oui, je crois qu'on peut le dire, oui. D'ailleurs, on le voit parce qu'il se dissimule beaucoup, il se cache. On voit que, par exemple, assez souvent, on ne sait pas où il réside.
Parce qu'il a énormément de palais,
voilà,
faut dire.
Voilà, exactement. Donc il se promène de palais en palais, on ne sait pas dans quel palais il est.
Il en fait construire des dizaines.
Voilà. Dans chaque palais, il y a un harem, un orchestre, des gardes, des cuisines. Donc il peut se promener de palais en palais sans qu'on sache exactement où il est. En général, seul le sait son premier ministre.
Mmh. Il est entouré d'une garde d'honneur, mais alors il a désarmé ses propres gardes.
Alors oui, ça c'est comme... il a tellement peur qu'on l'assassine que sa garde est souvent désarmée. Et c'est ce qui va se passer lors de la tentative d'assassinat de 227, c'est que là, il est sous la menace d'un assassin qui vient avec un poignard roulé dans des cartes. Et au moment où l'assassin sort son poignard, eh bien l'empereur se trouve... sans protection, puisque ses gardes n'ont pas d'armes.
Jinke.
Oui, c'est Jinke. Et alors là, il y a panique dans le palais. Alors le médecin prend sa trousse et commence à taper sur l'assassin, mais l'assassin, lui, évidemment, il sortit complètement. Et alors le roi n'arrive pas à sortir son... Il a tellement peu l'habitude de maniement des armes qu'il n'arrive même pas à sortir son épée de son fourreau. Il faut que les ministres qui sont là disaient « Mais Majesté, tirez, tirez, tirez
bon, !» finalement... Mais là, on est dans une scène qui est vraiment guignolesque.
Ah, oui.
Est-ce que là encore, on ne serait pas victime de la propagande des historiens
Peut-être aussi, d'ailleurs, parce que l'affaire... On voit d'ailleurs très bien qu'après, une fois qu'il a réussi à sortir son épée, il se jette sur le type, il le blesse, mais après, il va le taper à 8 reprises. Alors, le type est déjà quasiment mort. Il y a une sorte de névrose de l'homme.
Qu'est-ce qu'on sait de son rapport avec les femmes? Parce qu'il avait des harems, ça, vous nous le dites.
Oui.
Hein, donc, il avait beaucoup de femmes, alors.
C'est vrai que dans toutes les annales historiques de la Chine, la vie de chaque empereur, y compris celle de chaque impératrice, sont décrites en détail. Parce que l'impératrice est très importante dans l'histoire de la Chine. Seule exception, c'est sa vie de la cour impériale, et il y a aucune trace de l'impératrice ni favorite. Donc on dit qu'il a jamais nommé une impératrice.
C'est-à-dire qu'il a des courtisanes, mais il n'a pas d'impératrice.
Il n'a que des concubines.
Ouais, des concubines.
Et là, ça vient, selon les historiens, ça vient de sa mère, puisque mère, donc, qui est une grande danseuse, la plus belle de la ville de Hantan à l'époque, hein, la capitale du royaume Zhao, donc qui est, selon Sima Qian, qui est bien sûr la favorite du marchand Lu Bouvei, qu'il a donné au petit-fils du royaume Qi. Et puis après, sa mère a entretenu des relations avec un amant très connu. Et pour lui, c'est le déshonneur total. Et
donc, il en a gardé une très grande méfiance.
Oui,
envers,
méfiance.
Envers
ça, ça constitue un vrai obstacle psychologique.
Il a eu des enfants quand même.
Oui, il a eu une trentaine d'enfants. Mais on ne sait pas. C'est pour ça que les historiens aujourd'hui essayaient de remonter à travers ses enfants pour connaître un petit peu la mère et l'impératrice. Pour l'instant,
on n'en sait pas grand-chose.
Non, on ne sait pas, parce qu'on connaît deux de ses enfants, deux de ses fils, Fusu qui va être assassiné et Rurai qui sera tué plus tard, mais qui sera le deuxième empereur.
Le deuxième, oui.
Mais on ne sait pas qui sont les mères. On ne sait absolument pas.
Alors, c'est ce deuxième empereur dont j'ai cité tout à l'heure l'ordre un peu extraordinaire.
Oui.
À un moment de la mort de son père, il fait d'abord en sorte que toutes les concubines soient tuées.
Oui. Toutes les concubines de l'empereur.
C'est enterré vivant en même temps que l'empereur. Il a donné l'ordre à toutes ses concubines qui n'ont pas d'enfants d'être enterrées vivantes. Donc dès qu'il a annoncé cela, la cour impériale est résonnée des pleurs de toutes ces... Donc comme on dit en chinois, des centaines et milliers de concubines qui pleurent.
Mais il fait tuer aussi ses frères. Il fait tuer aussi ses frères.
Ah oui.
De tous les princes de la... Enfin, il est un peu comme son père, il ne veut pas de concurrent. Il ne faut pas oublier que Qin Shi Huangdi a tué son frère. Cheng Xiao est tué.
De toute façon, les complots et les intrigues hein, sont depuis la nuit des temps.
Bien sûr.
Oui.
Alors, quand même, si tous ces personnages, si, que ce soit les concubines, que ce soit les ingénieurs qui avaient travaillé à l'installation du, enfin, à l'aménagement du mausolée, si tout ce monde-là a été enterré vivant, c'est-à-dire enfermé dans la tombe, on doit bien en avoir des traces, on doit bien trouver leurs ossements aujourd'hui. Donc ça, ce serait là.
Mais les Chinois, normalement, les autorités chinoises n'ont pas envie de toucher, parce que c'est tout un univers hein, avec des galaxies, avec des étoiles, de la Lune et le Soleil et tout le territoire qu'il a conquis, bien sûr, avec les fleuves. Et ces fleuves sont alimentés par Mercure et que son cercueil flotte à l'intérieur. Personne
ne sait rien de tout ça.
On sait rien, mais
la tombe a été pillée.
C'est l'armée en terre cuite dans cette partie. Mais les scientifiques chinois ont quand même testé avec donc des moyens sophistiqués et ont testé vraiment la présence très importante des plombs. Donc, ça prouve que...
Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas le fameux tertre, hein, cette espèce de...
Parce que les Chinois, de façon assez intelligente, considèrent qu'ils n'ont pas les moyens financiers de mener une telle campagne archéologique, parce que c'est absolument immense. Donc, effectivement, il faut ouvrir toutes les fosses et ouvrir la tombe. Ça demande des moyens et ils préfèrent les laisser sous terre pour le moment. Au moins, c'est protégé.
Mais c'est fascinant. Ce que vous nous dites, c'est que le plus grand tombeau du monde se trouve là à portée de pioche, si je puis dire, ou à portée d'excavatrice, et qu'on n'y touche pas parce qu'on estime que ce serait un chantier archéologique ingérable, en quelque sorte.
Mais la Chine a les moyens maintenant.
Les soldats en terre cuite, lorsque on les a découverts, ils sont en couleur.
Oui, bien sûr. Ils ont perdu leur couleur.
Oui, donc c'est pour ça les Chinois ont enterré une partie en laissant juste quelques milliers de soldats
Il y a d'autres tombes un peu similaires. Les tombes des empereurs Han, c'est pareil, ils ont commencé à les fouiller, mais c'est des choses énormes. Donc il n'y a pas que la tombe du premier empereur, il y a beaucoup de l'archéologie. L'archéologie chinoise est quelque chose d'immense. On trouve des choses partout, tout le temps. Donc, il faut vraiment des finances énormes. Et je pense que ça ne sert à rien d'ouvrir pour abîmer.
On a dit qu'à Shanxi, il suffit de creuser n'importe où. C'est le trésor, c'est le tombeau de tel prince ou telle princesse.
Quelle richesse archéologique phénoménale. Ce qui est inouï avec la Chine, c'est qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet, quel qu'il soit, tout est démesuré, tout prend des proportions absolument incroyable. Et alors là, dans le monde de l'archéologie, nous sommes loin de nos petites tombes de petits rois grecs. J'ai l'impression que tout ça prend des proportions incroyables.
Et surtout que l'archéologie permet de trouver des documents d'époque.
Et oui.
C'est-à-dire qu'on a retrouvé des rapports de police, des rapports bureaucratiques.
Et bien sûr,
contrôles.
Parce qu'il y a une écriture. On n'a pas eu le temps de parler là de l'écriture, c'est une part non négligeable, évidemment, de cette civilisation. Je dirais même que c'en est le cœur. La mort, ce que vous nous racontez de la mort de cet empereur, de ce premier empereur, François Thierry, est assez anecdotique, disons. C'est assez rocambolesque.
C'est un des grands passages du Shechi de Shematien.
Oui,
c'est-à-dire que l'empereur faisait des grands voyages, des grandes tournées d'inspection qui étaient un peu des voyages aussi pour sentir l'atmosphère de son pays et tout. Et donc le dernier voyage, eh bien, il le fait vers l'Est. Et puis quand il commence à revenir, il commence à être malade. Mais il n'aime pas qu'on parle de la maladie, donc il ne faut pas en parler.
La mort.
Mais même la maladie, il ne faut surtout pas commencer à faire venir des médecins ou des choses comme ça. Ça pourrait être... Et puis alors, évidemment, il meurt. Et à ce moment-là, la cour se trouve. C'est une cour nomade. C'est des dizaines et des dizaines de chariots.
Une gigantesque cour qui est en permanent mouvement.
Et là, il se trouve avec le cadavre de l'empereur sur les bras. Mais que faire? Parce qu'évidemment,
surtout pas en parler,
parce que la succession n'est pas assurée. Et donc, on va faire comme si l'empereur était encore vivant. Donc, on va fermer les rideaux. Et puis, un eunuque va se mettre à l'intérieur. Et puis, parlera quand on verra des officiels, transmettra des messages. Il y aura une main qui sortira. Et puis, pour faire comme si l'empereur était encore vivant.
On peut pas dire que la dynastie était très assise.
Non. Justement, c'est pour ça que le gros problème de cette dynastie, c'est qu'en fait, elle n'a pas réussi à assurer son pouvoir. Et c'est les Han qui vont le faire. Les vrais unificateurs, les vrais fondateurs de l'Empire chinois sont les Han. D'ailleurs, les Chinois s'appellent des Han, ils se disent
des Han.
Ils ne se disent pas des Qin. Mm-hmm. C'est pas non plus
ça vient bien de là, oui. La ruine du Qin, ascension, triomphe et mort du premier empereur de Chine, c'est l'ouvrage de François Thierry à la librairie Vuibert. Et puis de vous, Libin Liu Le Gris, avec Claude Chancel, le grand livre de la Chine, tout sur l'histoire, la géo, la civilisation, la pensée, l'économie, la géopolitique chinoise aux éditions Erol. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce premier empereur de Chine, dont on aura compris qu'évidemment, il ne met pas forcément tout le monde d'accord. On est dans des périodes sans doute un peu reculées et dans une archéologie encore un peu balbutiante pour tout savoir sur un tel personnage.